1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une nouvelle émission Le Grand Tout. On est ensemble pendant 1h10, 16h30, 17h40, comme tous les jours ou presque du lundi au vendredi sur Canal B. Une émission qui vous permettra dans un instant de découvrir une nouveauté brûlante pour le label Howlin' Banana. Et puis ensuite on reviendra sur le festival Pipa la Pop numéro 4. Ce sera l'interview que nous avait consacré le duo Memorials qui donnait un très bon concert le 14 juin entre Deflagration, noise avec du saxophone digne et bien d'un enregistrement ethio jazz de Geta Chumekoria par exemple, et puis beaucoup plus douce, on les retrouvait grâce à Isa et Marc d'Alter Info. En page culture tout à l'heure, c'est Sozy Globaille, oui c'en est fini des chroniques littéraires qu'elle propose le mercredi avant la rentrée de septembre, mais elle voulait absolument que vous puissiez rencontrer Céline Lefeuvre, l'une des deux de la maison d'édition rennaise Pantera. Elle nous parlera, Céline Lefeuvre, notamment de l'album Youn et puis d'un album plus récent encore paru à destination de la jeunesse, une maison d'édition qui existe depuis un peu plus de 3 ans. Et puis on terminera le grand tout avec les deux albums découvertes Ferrarock de la semaine, Paradoxante d'un côté et Grand Gamin de l'autre. Mais on commence pied au plancher avec les Parisiens de Flipper pour un premier single qui inaugure un EP qui arrivera lui à l'automne pour le label Howlin' Banana. Deux guitares qui tremblent un petit peu, une batterie ultra véloce, un petit synthé, une basse qui poursuit les guitares, qui arrive à les rattraper d'ailleurs, elles vont au même rythme. Tout ça c'est influencé par le egg punk australien. Voici de quoi contenter les fans de GT, de Ghoulies, de Prison Affair, mais avec un titre, ce morceau Pac-Man, Made in Paris. Voilà, c'est chanté en français. Si vous avez l'occasion d'être du côté de Paris pour le 3 juillet, eh bien ils donneront leur tout premier concert. On écoute ce titre Pac-Man, et puis juste après, l'interview de Memorials grâce à Isa et Marc d'Alter Info. Bonne émission.
Thank you.
Nous sommes au Pipe à la Pop Festival et nous rencontrons Memorials. Déjà bien actifs dans leurs projets respectifs, autrement dit Electroline, Wire ou It Hugs Back, entre autres, Verity Sussman et Matthew Sims jouaient ensemble depuis plus de 15 ans de façon plus ou moins informelle, jusqu'à ce qu'on leur demande à tous les deux de réaliser des bandes originales de films documentaires et de faire quelques concerts, notamment les premières parties de Stereolab, excusez du peu. Alors, après avoir sorti un premier morceau sous le nom de Sussman and Sims, ce qui, on le raccorde, sonnait un peu comme le nom d'un cabinet d'avocats, ils ont choisi le nom de Memorials pour ce projet en duo. Parmi les documentaires dont ils ont écrit la musique, ils en ont sorti deux en vinyle, qu'on retrouve sous un format double album. L'un accompagne le Woman Against Bomb, un documentaire de Sonia Gonzalez qui raconte la lutte non violente pendant quasi 20 ans de milliers de femmes en pleine guerre froide contre la base militaire britannique de Greenham Common, qui abritait des missiles nucléaires américains. L'autre met en musique le documentaire canadien de Kevin Edge, Tramps, sur la scène des New Romantics londoniens et leur flamboyance queer. Ajoutez à cela un maxi suite à la commande du Centre Pompidou d'une pièce musicale en réponse à l'installation Precious Liquids de Louise Bourgeois et vous comprendrez que jusque-là, la musique que les deux composaient servait d'abord à accompagner d'autres projets. Et finalement, en plus de beaucoup tourner, les deux ont fini par sortir leur premier véritable album, Memorial Waterslides, sur Fire Records cet automne. Ils sont donc avec nous pour en parler. Alors juste avant de commencer, pardon Mathieu pour cet aparté, mais Verity, je voulais vous remercier d'avoir gardé si longtemps la photo de mon chat avec Electroline.
Oh, that was from you! Oh, yeah. Wow!
Thank you so much!
Yes.
Is it you who has a cat called Electroline?
Yes,
Yeah, oh my God.
A tortoise shell.
Yeah. Well, we were so honored to have a cat named after us. There isn't a higher honor.
Yeah.
Thank you.
Merci à vous. Alors, je vais traduire ce moment un peu personnel. Donc, Isa vient de remercier Verity parce que elle a gardé la photo longtemps du chat d'Isa qui s'appelait Electroline. Voilà. Très bon nom de chat.
Qu'est-ce qui vous a amené à la composition de cet album en octobre?
We started off writing film soundtracks together and then in our spare time, sort of as a distraction from the deadlines that we had for the films, we started writing for no particular purpose, just for our own enjoyment. And then over time we built up more and more songs and we ended up starting the band because somebody asked us to perform one of the soundtracks live. But then we also had all this other material, so it made sense to become a band and to turn those songs into an album. So it happened quite organically. And without much intention at the beginning.
C'est venu très naturellement au fil des choses. Donc, ils enregistraient donc les bandes-sons dont tu as parlé tout à l'heure. Et sur leur temps libre, ils faisaient des chansons. Et puis de plus en plus de chansons, de plus en plus de matériel sonore. Et y a un moment où les bandes-sons, il a fallu les jouer en live. Donc il a fallu monter un groupe. Et du coup, naturellement, les chansons sont devenues le premier album de Memorials.
Pour les deux documentaires, vous deviez répondre à des contraintes précises fixées par les équipes du film. Là, pour la première fois, vous n'aviez pas d'autres contraintes que celles que vous choisissiez. Comment s'est passée la composition?
We were writing it in spare moments as a break from writing for film. I suppose we write in a few different ways, but I don't really know how to describe the process because it comes together quite quickly, really. It's just following our instincts and that's what because it was done for fun and it was just to enjoy ourselves playing music. I think most of the songs will start from a small idea that one of us has, and then we build it into a song together. It's very collaborative in that way. All the parts, the lyrics as well. We work on it together.
One of the fun things about being just the two of us is that everything is collaborative, and then because we're layering it and playing lots of instruments, there's a lot of communication, but it's very, very easy to move forward when it's just the two of you.
Mm-hmm. Yeah, I think that it makes it quite quick at times. Some of the songs weren't quick, and we struggled over, and then others were really quick.
Struggling to finish,
that's the
struggling
thing.
Struggling to start is never a problem.
Yeah, the start's the easy and the most fun bit, and then the finishing things is harder. But it's good that we have each other to sort of push us to finish things. I think with the layering as well, it can really help in the development of a song and take it in a new direction. But also you want to stop yourself at a certain point. Sometimes you find songs are better without too many layers, and you end up stripping it back. So we're sort of experimenting with that all the time.
Elle a commencé à dire que c'était difficile à décrire parce que c'était des moments de pause, c'était des moments de récréation presque. Ils faisaient ça sur leur temps libre juste pour le plaisir, pour s'amuser. Et puis finalement, au fil du temps, il y a une collaboration qui s'installe, cette communication. Alors ils disent, deux, c'est très simple la communication, il y a un retour direct. Bon, il y a des chansons plus ou moins faciles à écrire, mais c'est toujours le départ est facile, et c'est où est-ce qu'on s'arrête, à quel moment on s'arrête, et ça, il faut discuter longtemps pour arriver à ça.
Puisqu'on parlait de nom tout à l'heure, désolé, la question est commune, mais j'aimerais vraiment entendre votre réponse. Pourquoi avoir choisi le nom Memorials pour le duo, et que signifie le titre de l'album Memorial Water Slides? Deux mots qui semblent assez antinomiques a priori.
We like the fact that the two words don't obviously go together. We heard about it's a lesbian march, a dyke march in Austin in the US, and they had as part of their march the Susan Sontag Memorial Water Slide, which we thought was really funny and such a brilliant idea. And when we were writing these songs and pieces, we started to name them after water slides. It was just a way of labeling and just a joke for us. And then when we came to decide on the name of the band, we went back to Memorials. We thought about calling ourselves Memorial Waterslides, and then just kept Memorials, and then went for that for the album. We like the idea of things that don't obviously go together. That's sort of some of what we do anyway in the music. So.
Ils disent qu'ils apprécient l'idée de mettre, d'accoler des choses qui ne vont pas ensemble a priori comme ça. Donc le terme water slide, si j'ai bien compris, ça vient d'une marche lesbienne, c'est ça, qui a lu. Donc c'est Austin qui donc le nom leur plaisait beaucoup, donc ils l'ont repris. Et puis Memorial, ça partait comme une plaisanterie au départ, et puis cette idée d'avoir deux éléments qui ça colle pas forcément, mais au final qui fonctionne, ça leur plaisait beaucoup.
Comment est-ce que vous avez eu l'envie et l'idée d'utiliser tous ces magnétophones à bande pour la composition et aussi pour le live?
The tape recorders, using them live was where we started. Because it's just the two of us, we needed ways of sort of bringing extra sounds onto the stage that we couldn't necessarily play it. So we're using different loopers, and the tape looper gives it works like a bit more like an instrument than a digital looper, the sort of the way it reacts to being mistreated or so that side of it, I mean, it's something we've both been interested in for a while, but this is the first time we've really used it within a musical setting, is that fair? That side of it's been really fun to explore, and it ended up having a bigger influence on the album when we came to record it.
Le fait d'être deux seulement sur scène, c'est venu assez rapidement pour ajouter du matériel sonore, de la musique, des instruments. C'était pas la première fois qu'ils utilisaient des bandes, ils les avaient déjà utilisées dans des mais pas autant pour la musique, et au fil de la composition, ils ont utilisés de plus en plus, y compris en live.
Vous êtes tous les deux multi-instrumentistes. Comment vous choisissez ensemble quel instrument et à quel moment vous allez en jouer?
When we're in the studio for recording, it's an easier choice because we sometimes we're playing together to record, but often we're just adding a layer. So
one of the reasons we started working together is that we don't necessarily tread on each other's toes. Between the two of us, it's we cover a lot of ground, but we kind of cover different ground to each other.
Yeah.
So in that way, it's
yeah, that's
quite easy. Verity plays guitar, and I can play rudimentary keyboards. But you know, we don't. Beyond that, there's not much crossover.
Yeah. So we know what we can play and what we can't play, or who can play something better. Yeah. But if we have an idea for, like if Matt has an idea for a keyboard line, or if I have an idea for a guitar line or something, then we, you know, we share that and we can get each other to play parts that we like.
Definitely.
So that's been a fun thing about this as well.
Ils jouent tous les deux beaucoup d'instruments, mais ils sont assez complémentaires finalement. Ils disent qu'ils ne se marchent pas sur les pieds, ils ont chacun leur domaine de compétences. Donc ils enregistrent des parts chacun de leur côté, à distance, et puis ils mettent ça ensemble. Et quand ils ont... L'avantage, c'est que comme ils se débrouillent quand même si ils ne jouent pas aussi bien que l'autre, ils arrivent à... Quand ils ont une idée, ils arrivent à la poser quand même sur une guitare ou sur un clavier, et à la transmettre à l'autre qui peut, lui, l'interpréter à sa façon.
Si je me souviens bien, avec Electroline, vous étiez les premières à amener une chorale avec vous au studio d'Electrical Audio de Steve Albini pour le morceau The Valleys, et Steve Albini était super excité à l'idée de l'enregistrer.
That's what Steve Albini said.
Yes.
He remembered him saying it the first time, that it was the first time they'd had a choir in there. And it seemed to be a bit of an event because the other engineers and people that worked there came in to watch to watch it happening. And it was sort of a bit of an excitement in the studio then.
Yes. Yeah. Du coup, à défaut de pouvoir déplacer une chorale, vous avez trouvé un moyen de la faire tout seul dans Memorials et même en live. Comment est-ce que vous faites et qu'est-ce qui vous en a donné et l'idée et l'envie?
Live, it's not there, you know.
You loop your voice, though.
I loop my voice a bit, loops. So we do it as much as we can.
But on record, it's all
on record. It's just layering up the my voice, you know, multi-tracking it. It'd be lovely to have a choir, but it's the fun. And live, it's a different thing. I wouldn't want to go on stage with lots of recorded voices playing. So we like Matt says, we loop the vocal, but it's a different thing.
Isa a demandé, donc Electroline, ça a été le premier groupe à enregistrer une chorale au studio de Electrical Studio. Donc c'était un événement, apparemment il y a des ingénieurs qui sont venus voir la chorale, et donc sur les titres de Memorial on entend aussi des chorales. Donc comme ils sont deux, on a demandé comment c'était possible. C'est Verity qui s'enregistre, qui fait des boucles, qui fait beaucoup ça, et elle explique que sur scène elle le fait également, il y a également des boucles, mais que c'est pas la même chose, fait qu'il y a une différence entre les deux. On va entendre ça ce soir, on a très très hâte.
Il y a quelques jours, j'ai lu une interview de Valentina Magaletti avec laquelle tu joues aussi, Matthew, dans Better Corners. Elle disait que l'avantage de travailler toute seule, c'était comme d'être dans un monologue, c'est qu'on sait où on va, à peu près, hein. Mais qu'écouter la réponse de l'autre, être dans le dialogue, enrichit énormément la conversation. À l'un comme à l'autre, qu'est-ce que vous apporte la composition à deux?
I don't always want to know where I'm going. So that's my answer. I like being surprised.
Yeah, that's a good answer. I think it can be difficult to... I mean, I certainly, working alone, I found it really difficult to finish things. And any self-criticism that you have can just become overwhelming if you're working on your own. But with someone else, you get past that more easily. So I think it's more I find it more enjoyable working together. And I think that if we do... You know, if we have an urge to write something and we're not together... We'll just write it, but then we can share it, and it's more likely that it'll get finished and haven't, you know, it'll be better because it'll have other ideas added to it. I feel like both of our songwriting has developed through working together in a way that it wouldn't if we just carried on our own. I prefer it.
Mathieu a dit expliquer que lui, il aime bien ne pas savoir où il va. Hein. Il aime les surprises, il aime se surprendre lui-même. Et donc, Verity a dit que tout seul, on peut s'enfermer et puis se laisser déborder par que le fait d'être à deux, c'est à la fois du partage, mais c'est aussi avoir des retours et permettre de se recadrer, de se remettre dedans aussi.
Travail en studio est extrêmement riche et vos morceaux sont vraiment très travaillés. Par conséquent, comment s'articule le passage du studio au live? J'imagine que ça doit pas être facile.
No.
That's very kind of you to say. We've been playing live for so long, both of us.
As musicians.
As musicians, yeah.
Yeah, playing live is very natural.
It's a bit more raw. There's less. Less finesse, I'd say. It's more.
It's a good thing to learn sort of early on in being a musician, being part when you're on tour and when you're playing live. There's sort of finesse or perfection. It's definitely not. You can't have that approach to that you might have in the studio. It's endlessly frustrating. So getting beyond that is good, which I think we have.
Yeah.
We sort of enjoy it for what it is.
I think it's quite liberating to play live and to get the energy from the crowd and to improvise in front of the crowd. We end up developing our songs. Some of the songs have changed quite a lot from playing them live.
Also, we get to visit loads of record shops,
yeah.
Which is great. Around the world.
Ça fait très très longtemps qu'ils font ça, alors donc ils ont maintenant l'habitude, donc ils disent que forcément quand vous êtes plus dans le studio, vous allez avoir un son plus brut, moins fin, il faut accepter de perdre en finesse, dépasser ça pour aller, mais ils disent que quand même c'est pas seulement une perte, c'est aussi une libération parce que ils se nourrissent de l'énergie du public et ça permet aussi de faire évoluer les morceaux, la musique peut changer, peut aller plus loin, enfin ça donne une liberté aussi d'accepter la brutalité un petit peu.
J'aime beaucoup l'équilibre que vous trouvez entre la musique expérimentale et l'efficacité des pop songs. Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez faire, trouver cet équilibre entre les deux?
Et ben voilà.
Pop music efficiency is a great way of putting it.
Yeah, it's brilliant.
I think that's what we. Yeah, that's sort of the core of what we're doing.
Yeah.
I'm going to remember that. Y a pas besoin de traduire. Describe what we're doing.
Sans transition aucune. Pourquoi aimez-vous les cages d'escalier?
Sorry, Brontis.
What's that?
Why do we like stairwells?
No, I know. That's it.
Why? We did some recording in a stairwell, but I don't. Was that where? That wasn't where it started. It started actually in France, in Paris. We came to watch a screening of our first of Des Femmes Façon Missive. That's the right title. Yeah, because we use the English title, but yes, it was made as a French film. We came for a screening of that, and we were staying in a beautiful old apartment with a stairwell. I took a photo of it, and then just started taking photos of them. And it's because we're traveling such a lot, and it's something that's everywhere, but they're always different.
You see different things in
there. Yeah, the sort of spiraling aspect is nice, but yeah, I mean, it's just a bit of fun.
On vient bien de parler d'escalier, c'est bien ça. Ok. Donc, Isa a demandé pourquoi elle aimait autant les escaliers. Apparemment, elle a une fascination pour les escaliers. Donc, elle aime bien la récurrence, en fait, le fait de retrouver les escaliers. Il y en a partout dans le monde. Ils voyagent beaucoup, ils font beaucoup de concerts. Et donc, ça permet. Donc, il les photographie, les filme, c'est ça. Donc, ça fait un élément récurrent, quelque chose de rassurant.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la peinture de la pochette de l'album? Qui l'a réalisé et pourquoi est-ce que vous l'avez choisi?
She's a friend of ours, a very old friend of mine from earliest years of school, called Laura Musavizadeh, and we both liked her paintings, and I've loved her art for since I was a child, and so we wanted her to paint the water slides, and she agreed to paint one for each single, and she ended up doing the whole series, so there's eight now. And she took the concept and sort of took it somewhere else. We wanted her because we knew that she would bring something else to it that we wouldn't know.
Painting in your house of hers.
Yeah, I've got a few of her paintings.
Looking at that and being that, like we discussed how she could probably do the sort of thing we had in mind.
Yeah.
Like bring her own style to it.
Yeah. She did a painting that's on in some of the Electrolane artwork.
Mm. Carousel?
Not the carousel, no. It's a house, so there's a deer in front.
Yes.
Yeah, yeah. She's done a lot of imaginary landscapes, and the paintings that I have of hers at home, I like that, and so when Matt saw them, we could both see that she would be able to do something really good with the idea of water slides.
An imaginary memorial.
yeah. Which she did, and we've asked her to do the artwork for our next album, which she's just started working on.
C'est une amie de Verity qui a fait la peinture, c'est Laura Musavizadeh.
Musavizadeh.
Ok, pardon. Donc elle a peint la chute d'eau, et ça lui a tellement plu qu'en fait elle a fait une série, carrément, de peinture. Donc il y a un tableau par morceau, donc 8 morceaux. Donc c'est des peintures qui sont assez familières. Elle avait déjà fait la pochette d'un album d'Electrolane, et donc c'est aussi des peintures qu'elle a à la maison. Elle aime peindre des paysages imaginaires, donc c'était parfait pour ces étranges chutes d'eau qui vont avec cette musique.
Si on en croit les dernières nouvelles, vous pourriez engager un partenariat avec l'industrie des toboggans aquatiques.
Oh, well, yes.
Yeah.
Has
someone been in touch? we had an email today, AI generated email from a company saying they're trying to, if you want to increase your social media numbers, they're saying, oh, we'd love the work that you're doing in the water park industry. So yeah. I had a lot of fun on water slides as a child, so yeah, I'd love to, but I don't think they want our
probably don't want our bleakness.
Donc il a demandé si ils envisageaient un partenariat avec un parc d'attractions aquatique, un parc aquatique. Et donc elle rigolait en disant qu'elle avait reçu un email. Voilà, comme on en reçoit beaucoup, nous aussi on reçoit des emails comme ça générés sans doute par IA. Et donc ils proposent des partenariats, qui disent c'est super ce que vous faites, mais pour augmenter votre audience sur Internet, on vous propose des partenariats ou des publicités ciblées. Donc, bah, eux, ils ont droit au parc aquatique.
Il y a quelques jours à peine, vous avez partagé la scène avec Christine Hersh. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Yeah, it was sort of, it was very, very, very last minute.
Yes.
And
to the point of, I mean, no, completely unrehearsed. The idea.
Yeah, we hadn't played it before we went on stage.
It was an idea from Fire Records and the label boss James,
yeah.
I believe.
Yeah.
But it was fun to. It was Christine's lovely,
yeah,
and great.
Yeah.
She's great.
So really,
that
like
was, that was fun.
So, yeah.
En plus de cette super date au Pipe à la Pop ce soir, vous jouerez de nouveau en Bretagne cet été à la Route du Rock. J'étais aux deux concerts d'Electroline là-bas, Verity, et je crois que vous en avez d'aussi excellents souvenirs que moi. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer là-bas à nouveau cet été?
It's amazing. I think of all the festivals that we could have been asked to do, I was happiest to be asked by this one. So yeah, it's amazing. I can't wait to come back.
I've never been, no. So it'll be my first time. I'm looking forward to it.
On aura de la chance parce qu'on va les voir deux fois en quelques mois, puisqu'ils reviendront à la Route du Rock cet été. Donc elle a déjà joué deux fois avec Electroline. Voilà, apparemment c'est un très très bon souvenir d'Isa et de Verity. Et donc elle est très très contente d'y retourner.
Pour finir, après votre concert au Pipe à la Pop, quels sont vos futurs projets? Recording?
Yeah, recording. We're going to...
We go from here.
We go straight to a studio just south of Bordeaux in Maya. It's called Studio Saint-Rémy. We went there in March to do some recording for a new documentary that we're doing, which will be shown... It's going to be shown on French TV, I think, in October. It's the same director as Des Femmes Face au Missy. A new project. And so we really liked the studio and decided to go back there. So we're just going for a couple of days to do a bit more recording for our album, to get close to finishing our next album, which hopefully will be all done just before we go to America,
yes.
And to come out next year. If everything goes well.
Eh bien, ils ont des très très bonnes nouvelles. Et ils vont retourner donc près de Bordeaux dans le studio Saint-Rémy pour enregistrer la bande-son d'un nouveau documentaire du même réalisateur de Des Femmes contre les missiles, qui sera diffusé à la télé apparemment. On vous en parlera, je pense, il y a des chances. Et en plus, ils vont enregistrer un nouvel album qu'ils espèrent sortir l'année prochaine avant d'aller aux États-Unis. Thank you so much.
Thank you. Thanks for having us.
Here comes the lamplighter, here comes the night, and the nightingale singing in the dawning light. Dropping off, we started from an never-ending circle home. The root of gold spreads through the walls, and at what age you stop? Find it's gone, now is assigned to vacancies in another life. Our robes are stored away, waiting for the knife. The root of gold slides through the walls. And at what age do you start wanting more?
C'était une interview du duo Memorials croisé lors du Pipe à la Pop numéro 4 le 14 juin dernier au Jardin Moderne grâce à des Pichikai. Merci à Isa et Marc d'Alterinfo. Vous avez entendu deux morceaux de Memorials au début et à la fin de cette interview. C'était Lamplighter et puis au milieu le titre Acceptable Experience. À suivre la page culture du Grand Tout. Dans la page culture du Grand Tout aujourd'hui, c'est Soisy Globaille qui a pu rencontrer Céline Lefeuvre, l'une des deux éditrices de la maison d'édition rennaise Pantera. Elle nous raconte l'histoire de la naissance de cette structure qui a un peu plus de 3 ans et puis elle parlera plus précisément de deux albums, Youn et puis aussi Les graines de bébé ne poussent pas toutes. Et pour commencer, un petit retour en arrière sur la genèse de Pantera.
On est deux chez Pantera, Marianne Selly et moi-même. À l'origine, on était à Paris. On a travaillé dans l'édition toutes les deux, Marianne un peu en librairie. Et après une dizaine d'années dans l'édition, avoir travaillé pour différentes structures, on a eu envie de monter notre propre maison pour différentes raisons, parce qu'on avait envie de faire des livres qui nous ressemblaient davantage, de quitter ce milieu très éditeur parisien, très pyramidal, parfois un peu patriarcal. Donc voilà, on avait envie de s'éloigner de tout ça et de faire des choses qui nous ressemblaient, qui avaient nos valeurs. Et on est toutes les deux d'origine bretonne, et donc l'idée de monter sa maison, c'était aussi de revenir en Bretagne, et de participer un peu à cette décentralisation de la culture. Donc on a monté Pantera en janvier 2022. Au début, on était un peu entre Paris et Rennes, mais maintenant, on est toutes les deux à Rennes.
Qu'il y en avait une qui était restée à Paris, non ?
Elle vient de revenir. Voilà, donc maintenant on est enfin rassemblés. Et donc l'idée de Pantera, c'est de faire donc des livres avec des univers graphiques toujours assez forts, adressés aux enfants et aux adultes, et qui ont des messages qui font écho avec notre société actuelle, avec les enjeux actuels, avec des valeurs sociales, écologiques, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir des propos graphiques, mais aussi textuels, qui sont contemporains, qui sont riches, et qui sont accessibles aux enfants, ou alors vraiment très développé quand on s'adresse aux adultes. Donc on a 4 collections, une collection de reportages dessinés, donc là c'est vraiment pour les adultes.
Vous pouvez me citer un titre ?
Oui.
Donc on y est.
Donc on a notamment sorti « À contre-marée » dans cette collection, qui est donc un reportage dessiné sur Scarlett Le Cor, qui est une femme marin-pêcheur au Guy de Vinec, assez connue en Bretagne. Et donc l'idée de cette collection, c'est de suivre un parcours personnel et en fait, à travers son parcours, de découvrir aussi une profession, un milieu professionnel peu connu. Donc par exemple, pour Scarlett Le Cor, on a découvert son parcours à elle, mais aussi le milieu de la pêche, depuis les années 60. Mais également l'algoculture, puisqu'elle s'est lancée dans l'algoculture il y a quelques années. Et donc cette collection suit ce même principe à chaque fois autour d'un ou d'une professionnelle différente.
Toujours des filles ?
Pour l'instant, oui, mais ça ne va pas forcément être le cas tout le temps. Mais on a eu des profils intéressants qui étaient des femmes, donc voilà. Ensuite, on a donc la collection Rocambole, qui est une collection de bandes dessinées, de bandes dessinées très graphiques, qui s'adressent à différents types de publics, souvent jeunesse. Et l'idée de cette collection, c'est d'explorer comment des artistes s'approprient des thématiques comme la nature, des enjeux liés à l'écologie, etc., mais qui les explorent vraiment de façon très artistique avec, encore une fois, des univers graphiques très forts. C'est notamment donc, le cas de Youn, notre dernier titre dans cette collection. Enfin, on a 2 autres collections en jeunesse, donc une de documentaire pour la jeunesse qui s'appelle Sauvagement. L'idée de cette collection, c'est d'aller chercher des sujets peu ou pas exploités dans la littérature jeunesse.
Ça existe, des thématiques pas explorées en
jeunesse ? Eh bien oui, en fait. Et c'est ça qui est fou. Et en fait, on s'en est rendu compte quand on a créé notre maison d'édition, parce que, pour faire un petit retour en arrière, en fait, on est aussi parti d'un constat, c'était qu'il y avait une très grosse surproduction, ça tout le monde est au courant, une surproduction en termes de volume, mais en fait aussi une surproduction en termes de thématique, parce qu'il y avait beaucoup de livres sur les mêmes sujets qui sortaient. Ce qui fait que, voilà, par exemple, il y a beaucoup de documentaires jeunesse sur les grottes,
sur les dinosaures, les châteaux forts, les pirates.
Les chevaliers, les princesses, et ça, il y en a pléthore. Sauf qu'il y a des sujets, en fait, bizarrement, qui n'ont jamais été exploités. Donc nous, on a décidé, en partenariat avec des bibliothécaires, des libraires, en fait, on leur a donné des questionnaires, et on leur a demandé, est-ce que vous pensez qu'il y a des thématiques qui ne sont pas ou peu exploitées dans la littérature jeunesse ? Et on a eu des réponses. Et donc, on a orienté cette collection-là, dans cette idée-là. Donc toujours sur des sujets liés à la nature. On a fait sur les mots mauvaises herbes, bon, les champignons c'est un peu fait mais pas tant que ça, et notamment les derniers sur les algues, le blob, le plancton, et en fait c'est des thématiques qu'on ne retrouve pas.
Plume de carotte à Toulouse, il ne fait pas ce genre de documentaire justement très axé sur la nature et l'écologie.
Si. Hein. Il y en a d'autres, il y a la cabane bleue par exemple à Nantes, oui. Et d'ailleurs on s'est retrouvés sur les mêmes thématiques sans s'être concertés, elles ont fait aussi les algues comme nous, les mauvaises herbes comme nous, ouais. Donc c'est rigolo, mais en fait il y en a quand même très peu. Et l'idée de cette collection, c'était aussi de l'aborder avec un prisme un peu BD. Donc en fait, c'est un documentaire jeunesse avec des pointes, des petites touches de BD qui rendent le documentaire assez attrayant, assez dynamique. Et enfin, notre dernière collection, Trublion, qui est une collection d'albums de fiction pour les enfants. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'aborder des thématiques actuelles, donc que ce soit sur des thématiques sociétales, ou plus intimes, mais en tout cas qui parlent aux enfants d'aujourd'hui, à partir de 5 ans, même si certains ont un peu plus de texte que d'autres, et après, ça dépend des enfants. On dit toujours « à partir » pour que les gens aient une notion un peu d'âge, mais bon, ça reste assez libre au final. Et donc là, l'idée, même si beaucoup de thématiques, pour le coup, ont été quand même abordées dans les albums pour la jeunesse, c'était quand même d'essayer de se démarquer de ce qui existait déjà. Donc avant de choisir un manuscrit, on fait vraiment une veille approfondie. Et si la thématique qu'on nous propose a déjà été beaucoup exploitée et avec ce même prisme, en général, on n'y va pas. Même si le texte nous paraît bien écrit, etc., on fait vraiment attention à ne pas alimenter cette surproduction. S'il y a déjà plein de livres qui parlent de une thématique qui revient souvent en ce moment dans les manuscrits qu'on reçoit, c'est comment les villes deviennent ultra bétonnées et comment l'espoir va revenir à travers une petite fleur qui pousse. Il y a énormément de livres jeunesse qui parlent de ça aujourd'hui parce que c'est actuel, c'est sûr. Mais nous, on va pas en faire encore d'autres parce qu'il y en a déjà plein qui sont là. Donc voilà, on essaye quand même d'aller sur des thématiques qui sont peu ou pas exploitées. Et donc des fois, ça donne naissance à des livres qui sont assez tranchés et qui sont presque de niche, mais c'est un vrai choix éditorial de notre part.
Pas d'achat à l'étranger ?
Non.
Pas de vente ?
Si, des ventes à l'étranger. On a donc une agente de droit. Donc l'agence, c'est Tipeee à Nantes. Et donc, elle s'occupe de nos livres jeunesse. Et donc, on a, surtout sur cette collection Sauvageon, donc de documentaires pour la jeunesse, on a déjà vendu à l'Italie, aux États-Unis, en Chine et en Russie.
Aux États-Unis, bravo, hein ?
Oui. C'est pas évident. On en a un.
Ils achètent jamais.
Non, ils achètent très rarement. Ah, oui. Ouais.
Distribué par Harmonia Mundi, ça a été facile d'intégrer l'équipe d'Harmonia Mundi parce que il faut s'engager à faire un certain nombre de titres par an. Ça ne vous a pas fait peur ?
L'engagement qu'ils nous demandaient, c'était ce qu'on avait prévu à la base. Donc nous, on s'était dit autour de 10 titres, c'est ce qu'on fait. Là, on va être un peu en dessous parce que voilà, pour des raisons de rythme éditoriaux, de travail, mais aussi de surproduction en librairie, tout simplement. On a décidé de réduire un peu pour se focaliser encore plus sur ce qui était déjà sorti, sur ce qui était en train de sortir, et c'est sur ce qui allait sortir. Donc non, ça n'a pas été le plus gros problème pour nous. On a vu qu'on avait en fait pendant un an énormément préparé nos premiers titres. En fait, quand on est allé voir Harmonia Mundi, on avait déjà des choses très concrètes et tangibles à leur présenter. Et je pense que c'est ça qui a dû les convaincre.
Le morceau. Parce qu'Harmonia Mundi quand même doit être diffuse et distribue des maisons d'édition ambitieuses. Et puis c'est ça, avec des catalogues particuliers.
Oui, après, ils ont aussi une image de diffuseur-distributeur, justement, qui diffuse et distribue des petites maisons indépendantes avec des partis pris éditoriaux assez tranchés. Donc, nous, on s'est tout de suite dirigé vers eux, et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils nous ont choisis, parce qu'on rentrait, en fait, finalement, dans leur ligne éditoriale, si on peut appeler ça comme ça. C'est vrai qu'en fait, on n'a pas eu trop de mal à les convaincre, donc tant mieux pour nous. On sait que maintenant, c'est plus compliqué. Peut-être que si on voulait monter Pantera aujourd'hui, ce serait différent, mais quand on l'a monté, on pouvait encore être diffusé, distribué par eux.
Donc combien de titres au catalogue aujourd'hui ?
On en a un peu plus de 20.
Quel est votre best-seller ?
À Contre-Marée, dont je parlais tout à l'heure, c'est celui qu'on a le plus vendu, qu'on a réimprimé tout de suite après sa sortie. Ce qui a beaucoup joué, c'est Scarlett, qui a énormément soutenu le livre et qui est quand même presque une star
En Bretagne.
En Bretagne, en tout cas. Et elle a énormément soutenu l'ouvrage. Donc, je pense que ça a beaucoup joué. Donc, il se vend encore beaucoup. C'est un livre qui plaît beaucoup. Et sinon, toute notre collection de documentaires pour la jeunesse, donc Sauvageon, se vend très bien. Celui sur les champignons, celui sur le blob, sur les mauvaises herbes, c'est vraiment des petits succès qu'on réimprime en ce moment, justement, pour qu'ils soient toujours disponibles.
Un tout petit peu technique et un peu fabrication. Alors, vous m'avez gentiment envoyé Youn. C'est un livre ambitieux, avec beaucoup de pages, sans aucun texte. Et puis, je voudrais parler un peu de la fabrication. On n'en parle jamais dans les livres. Et moi, je trouve ça important que ça fait le livre. Donc là, c'est un livre cartonné. Qui est-ce qui est fabricant chez vous ?
Celui-ci, on l'a imprimé chez Lego, en Italie. C'est un imprimeur qui imprime très régulièrement des livres en couleur et cartonnés. Donc pour la jeunesse, mais aussi pour la BD. Donc on leur fait entièrement confiance.
Mais comment c'est ? Non, mais la fabrication, ici, chez vous ?
Vu qu'on est une très, très petite structure, on fait un peu tout, forcément. Ouais. Donc là, on a eu la chance de travailler avec Camille Gobourg, qui est l'illustratrice est l'autrice de cette BD. Et en fait, c'est elle qui a été plus ou moins fabricante en partenariat avec nous, on va dire ça comme ça. À l'origine, c'est nous qui nous occupions des maquettes. Petit à petit, on fait appel à des graphistes et maquettistes extérieurs. Mais avant, c'était nous. Donc, en fait, Camille est très au fait de tout ce qui concerne la fabrication.
La photogravure, notamment, ce qui est très important, là, je pense, non ?
Là, il n'y a pas de photogravure. Donc, en fait, c'est Camille qui a fait, qui a scanné tout simplement ses planches et qui a su très bien les retravailler. Donc, en fait, la chance qu'on a sur cette BD, c'est que Camille est très compétente en termes de fab, de maquette, d'illustration. Elle a une notion, voilà, de la couleur qui est très professionnelle. Et donc, voilà, ça a été un atout sur cette BD parce que c'est elle qui a fait, en fait, toute la maquette. Et après, nous, on a été en lien avec l'imprimeur pour régler notamment la question du Pantone. C'est un Pantone rose fluo, donc qui rend le rose un peu plus flash, mais en fait le rose s'intègre aussi un peu dans les bleus, ce qui rend aussi les bleus un peu plus intenses. Donc on a choisi le Pantone sur la demande de Camille, et elle a eu raison de nous le demander, parce qu'en fait Camille, elle a travaillé au promarqueur, et donc les promarqueurs, c'est une technique d'illustration où les couleurs sont très lumineuses, très fortes, donc elles ont vraiment un très fort effet visuel qu'on perd quand on scanne. Et donc pour retrouver cette luminosité dans la couleur, c'est vrai que le Pantone aide beaucoup. C'est une des raisons pourquoi on a choisi un Pantone. C'est une encre particulière. En fait, quand on imprime un livre, il est imprimé en quadricolore, donc c'est-à-dire avec le cyan, magenta, jaune, noir. Donc on a ces trois couleurs-là sur les imprimantes, et donc c'est ça qui rend les livres, voilà, colorés, comme on les trouve en librairie. Mais parfois, on peut choisir donc d'utiliser un Pantone, et donc un Pantone, c'est une couleur qu'on ne peut pas avoir avec ces quatre couleurs du CMJN. Donc on va demander à l'imprimeur soit de remplacer une des couleurs du CMJN par cette couleur unique qu'on n'arriverait pas à obtenir avec le CMJN, soit d'apporter une couleur Pantone en plus du CMJN. Cyan, magenta, jaune, noir. Et donc là, on a décidé de remplacer le magenta, donc qui est plus ou moins le rouge, quoi, par un rose fluo. Et donc ce rose fluo vient pimper les rouges et les roses, mais aussi intensifier les bleus.
Céline Lefebvre de la maison d'édition rennaise Pantera parle à présent d'un des derniers albums parus, Youn, sans parole mais plein de couleurs.
Youn, on a mis 3 ans à le faire prendre vie. L'histoire, elle a commencé au tout début de Pantera, où avec Marianne, on regardait un peu les artistes qu'on pouvait contacter via Instagram. Et on a vu le travail de Camille Gobourg, qui avait encore sorti aucun livre. Et on a vraiment adoré son travail, voilà, son univers, mais aussi ses couleurs, justement, grâce à ses feutres à alcool. Et on l'a contactée en lui disant qu'on adorait ce qu'elle faisait, et on lui a demandé si elle avait des projets dans les tiroirs. Et elle nous a dit que oui, et elle nous a envoyé les premières planches de Youn, qui s'appelait Jaune à l'époque, et on est tout de suite tombé vraiment amoureuse de son travail, et on lui a dit c'était ok, on te publie, voilà, on commence tout juste à monter Pantera, mais si ça te va, on publie ta première BD. Et donc elle a été d'accord, et tout à fait emballée, et vu que c'est elle qui est l'autrice illustratrice, même s'il n'y a pas de texte.
Il n'y a aucun texte.
Il n'y a aucun texte, mais elle est, on va dire, la scénariste. Ça raconte quand même une histoire. Donc en fait, c'est vrai qu'elle a eu totalement la main sur son ouvrage. Donc en nous envoyant régulièrement les planches, on l'a accompagnée, on l'a conseillée, etc. Mais son idée était tellement quand même précise et claire qu'elle a pratiquement tout fait toute seule finalement. Nous, on était vraiment là, voilà, pour la soutenir dans son projet et la conseiller au besoin. Et donc Yoon, qu'est-ce que ça raconte? Dans les premières pages, on voit une jeune femme émerger des eaux, se retrouver sur la terre ferme et très vite être en contact avec une espèce qui ressemble plus ou moins à des singes. Et donc cette espèce va lui proposer de la suivre, voilà, pour les rencontrer, pour entrer en contact. Et en fait, très vite, cette espèce va montrer à cette jeune femme que en fait elle est en voie de disparition. Elle va lui montrer pourquoi et en fait elle va lui demander de l'aider à résoudre ce problème. Toute la BD va être ce parcours dans une jungle très onérique, presque fantastique, de cette jeune femme qui va suivre cette espèce, qui va aussi rencontrer d'autres animaux qui vont l'aider dans sa quête. On va parcourir avec elle cette jungle et suivre sa quête. Donc c'est vraiment une fable onérique, écologique, fantastique. Elle est beaucoup inspirée notamment de l'univers de Miyazaki. Visuellement, c'est pas forcément la même chose, mais en termes d'idées, on y a un peu des animaux un peu fantasques, toujours des quêtes écologiques, avec un personnage féminin central fort. Voilà, il y a toutes ces inspirations qu'on peut retrouver dans Yoon.
Et pour terminer la discussion, Swazi Globaï, qui s'entretenait avec Céline Lefebvre de la maison d'édition rennaise Pantera, lui a demandé de parler d'un autre album récemment paru lui aussi.
En avril, on a sorti Graines de bébé, qui est un album pour la jeunesse à partir à peu près de 4 ans. Graines de bébé nous a été proposé par l'autrice de cet album qui s'appelle Audrey Alouette. Et en fait, il parle du droit à l'avortement, mais à niveau d'enfant. Donc quand on a reçu ce manuscrit, on a été très emballés déjà par son écriture qui était très belle, très simple et en même temps très poétique, et surtout par le fait qu'elle ose parler de ce sujet-là à hauteur d'enfant, ce qui n'avait jamais été fait. Et donc on s'est dit go, allons-y, surtout que ça avait été renforcé par le fait que son agente, qui nous avait envoyé le manuscrit, nous avait dit que absolument tous les éditeurs de France avaient refusé ce manuscrit, trop dérangeant, on ne parle pas de l'avortement aux enfants. Sauf qu'en fait, les enfants ne vivent pas dans des bulles hermétiques, ils entendent les adultes parler, ils entendent ce qui passe à la télé, ils entendent la radio, et surtout ils parlent beaucoup entre eux. Et entre eux, ils peuvent véhiculer des idées fausses, notamment sur des choses comme l'avortement.
Mais moi je me souviens de pédiatres qui disaient que les enfants savaient avant les mamans lorsqu'elles étaient enceintes.
C'est bien possible et surtout, en fait, les enfants captent beaucoup de choses, ils comprennent beaucoup de choses et en fait, il suffit juste de leur expliquer avec les bons mots. Et c'est ce qu'a fait Audrey. Donc on a été tout de suite très emballés par le projet qui est sorti en avril, qui est illustré par Victoria Dorsch, donc avec des dessins très beau, à la gouache, très coloré, très lumineux aussi, très poétique, parfois un poil onirique, très végétaux aussi, parce qu'en fait, on parle du droit à l'avortement avec une métaphore végétale, donc avec la métaphore des noyaux d'abricots qu'on va planter ou non dans le jardin, donc métaphore de la graine que les femmes veulent ou non garder dans leur propre jardin. C'est un livre qui nous tient vraiment très à cœur, surtout aujourd'hui, au vu de l'actualité, donc à l'étranger, mais aussi en France.
Ah non, mais aussi en France. Oui.
Voilà, parce que le droit à l'avortement ne sera jamais acquis à 100%. Et donc,
il est rentré dans la Constitution. Hein.
Ouais, mais bon,
dans les faits.
Dans les faits, il faut toujours garder en tête que c'est quelque chose pour lequel il faut.
Vous n'avez pas cherché de partenariat avec le planning familial?
Si, donc il est en partenariat avec le planning familial qui a rédigé une petite introduction. En début d'ouvrage, on est en train de faire une sorte de cycle de conférences. En fait, on a fait une à Rennes, une à Marseille, on va faire une à Paris. Où justement, par exemple à Rennes, il y avait donc la co-directrice du planning familial qui était avec nous pour parler du livre, de son importance, de comment le planning familial pourra l'exploiter. Donc il y avait aussi l'autrice et il y avait aussi Sophie Marotte qui est une actrice culturelle à Rennes.
À Rennes,
hein. À Rennes, ouais. La discussion était animée par Solveig de La Nuit des Temps. Donc c'était très intéressant et c'est vrai qu'on essaye de faire ces rencontres-là pour en fait aussi accompagner la sortie du livre et expliquer pourquoi c'est important d'avoir un livre jeunesse qui parle du droit à l'avortement. Parce que ce n'est pas que pour les familles qui sont confrontés à ça. Par exemple, une mère qui a déjà des enfants, qui doit avorter, qui doit l'expliquer à ses enfants. Voilà. Mais c'est aussi parler vraiment du droit, donc du droit de disposer de son corps en tant que femme, et donc de l'expliquer aux petites filles, mais aussi aux petits garçons, voilà, de façon générale, que chacun a le droit de disposer de son corps comme il l'entend, et que c'est pas à d'autres de lui obliger à faire quoi que ce soit.
Je vous remercie. Maison d'édition à suivre, hein, Pantera, une maison d'édition ambitieuse, tant pour ses thèmes que aussi pour, je trouve, les choix graphiques que vous opérez et qui sont quand même, moi je trouve, relativement originaux. J'en ai pas vu beaucoup des comme ça, et donc je vous félicite et puis je vous dis à bientôt, on va vous suivre.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Merci à Soisy Glebaille pour cette rencontre avec Céline Lefeuvre de la maison d'édition Pantera, basée à Rennes. La musique d'illustration de cette interview était due d'abord à Manfred Hubler et Siegfried Schwab avec le titre The Lions and the Cucumber. Vous avez aussi entendu des extraits du fameux Tiger par Brian Auger. Info à retrouver sur editionpantera.com. Terminé l'émission Le Grand Tout. Maintenant, les deux albums découvertes Ferrarock cette semaine. Vous les retrouverez vendredi d'ailleurs en interview dans Dig Dig Diggers. C'est l'émission hebdomadaire des radios de la Ferrarock. Canal B vous diffuse le vendredi à 18h. Vous entendrez donc Paradoxant, extrait de l'album 2. Et puis juste après, le Lyonnais Grand Gamin, extrait de l'album Tout est flou. Dans un instant donc, Calypso par Paradoxant, et puis pour terminer, Canaille par Grand Gamin. Toutes les infos sur ces deux disques, si vous ne pouvez pas écouter l'émission Dig Dig Diggers vendredi, ou la rediffusion de lundi matin sur Canal B, bien vous les retrouverez, les infos sur ferrarock.org. Nous terminerons la saison du Grand Tout vendredi avec une dernière émission, comme c'est le dernier vendredi du mois, bien ce sera Champ Libre A. Nous rencontrerons Morgane Le Gallic, directrice des Tombées de la Nuit, qui ont déjà commencé mercredi soir et que je vous encourage à aller découvrir, notamment avec cette mini tournée itinérante à vélo de Galapia Cirque avec les Maîtres du Désordre. On se retrouve donc vendredi, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.
je vous vois voler au loin comme des oiseaux sans cage. Courir à même les rues des villes comme si c'était la plage. J'oublie le bruit des automates et des efforts en vain. Tout est là devant moi, je n'ai besoin de rien. Et nos nuits et nos jours qui nous rappellent encore que demain sera court, qu'il faudra croire encore. Au bonjour, bonne nuit, le silence et la mort. Les miennes, évaporer tous les chagrins quand les câlins sont là. C'est mes yeux que je frotte, c'est bien vous que je vois. Et nos nuits et nos jours qui nous rappellent encore que demain sera court, qu'il faudra croire encore. Au bonjour, bonne nuit, le silence et la mort.